Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons pour Terre solidaire avec le Comité catholique contre la faim et pour le développement. La semaine dernière, on a évoqué comme un des obstacles à une alimentation correcte des personnes le fait de structures foncières injustes. Il s'agissait des grandes propriétés, des fazendas brésiliennes ou des latifondias d'Amérique latine. Mais il y a un autre problème, c'est celui de l'accaparement des terres. Alors, accaparer les terres, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, accaparer, on voit bien. C'est vrai que depuis toujours, il y a des échanges. Un agriculteur vieillit, il s'en va, il n'y a personne pour prendre sa succession, les terres sont vendues, échangées, donc normal. Mais ces échanges se font à des rythmes naturels. Et puis, depuis quelque temps, on s'est aperçu que les échanges s'étaient accélérés, qu'ils portaient sur des terres de plus en plus importantes et que, en fait, ce n'étaient plus des échanges normaux d'agriculteurs qui vont et viennent, mais ce sont des investissements dans la terre. Là aussi, pourquoi pas? Ils deviennent plus nombreux. Et puis, troisième étape, ces terres sont vouées à des cultures différentes. Et dans les pays où jusqu'alors il y avait un certain équilibre alimentaire, eh bien on voit apparaître des émeutes de la faim, des crises alimentaires. Alors, le CCFD soutient des partenaires qui disent, eh bien voilà, des pays achètent et nous privent de nos terres. Regardons de plus près. Le CIRAD, c'est-à-dire le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, c'est associé avec Landmatrix. Landmatrix, c'est une association de chercheurs de plusieurs pays sur le même thème qui ont perçu que c'est environ 1,5 à 2% de la surface agricole mondiale qui change de propriétaire. Ah, on acquiert des forêts. Alors, des forêts sont vendues sur des marchés boursiers comme crédit carbone à des entreprises pour compenser les émissions de gaz à effet de serre. Alors, vous vous rappelez, je pollue sur les bords de la Seine. Pour compenser, j'achète un petit morceau de terre au Pérou pour compenser mes crédits carbone. Cette forêt que j'ai achetée, je l'enferme, je lui donne un statut de réserve. Et puis, les paysans qui sont là ou les indigènes qui sont là et qui vivaient de la forêt, qui avaient construit leur hutte et qui cueillaient, eh bien, ne peuvent plus cueillir, ramasser et vivre dans cette forêt. Donc, on voit déjà comment ce mécanisme de compensation carbone est injuste. Mais en plus, il y a des terres qui sont achetées en Asie du Sud-Est, en Afrique subsaharienne. Alors, qui achète, outre pour compenser ces émissions de gaz à effet de serre? On a des pays riches qui produisent pas suffisamment d'alimentation ou qui n'en produisent pas du tout. Par exemple, le Qatar a une situation telle que pour produire de l'alimentation, c'est tout à fait artificiel. Les vaches sont dans des étables climatisées, au passage, alors que les populations du désert sont sous des tentes. Mais enfin bon, sécurité alimentaire oblige. Pour produire des biocarburants. Et puis aussi, dans le cadre d'accords dits gagnant-gagnant. Alors, c'est quoi ces accords gagnant-gagnant? Eh bien, avec l'argent que des pays du Nord, le Royaume-Uni, le Japon, les États-Unis ou d'autres, ont acheté des terres, le pays peut obtenir les infrastructures qui lui font défaut. Seulement, souvent, le gagnant-gagnant est un peu un jeu de dupes. Ainsi, en Afrique, vous pouvez rouler sur une route. Il y a 2 kilomètres qui sont corrects, goudronnés. Et puis, un peu plus loin, eh bien, on retrouve les nids de poules et vous mettez 2 heures pour faire 60 kilomètres. Ou bien, vous rencontrez dans les villages des poteaux. Les poteaux électoraux, vous disent les proches. Cela veut dire que cela s'est fait avec l'accord d'autorité locale avec qui on a fait miroiter qu'on pourrait électrifier une zone. Seulement, seuls les poteaux sont arrivés, mais il manque les fils et le reste de l'équipement. De telle sorte que on voit que l'accord gagnant-gagnant n'est pas tout à fait respecté. En plus, en principe, ces échanges se font toujours avec l'accord des pays concernés. Or, les chercheurs du CIRAD ont démontré que dans 7% des cas étudiés, la population concernée a été informée. 7% des cas a été informée. Dans 60% des cas, il n'y a même eu aucune consultation. Cela veut dire que ces échanges se font sans consultation des pays concernés. Or, lorsque un paysan qui a 3 hectares est obligé de se défaire de 2 hectares, il passe d'une situation de sécurité alimentaire à peu près correcte à une situation de grande précarité. Et souvent, dans l'organisation agricole de ces villages d'Afrique, par exemple, les zones à proximité du village sont partagées entre les familles. C'est là qu'on a le demi-hectare ou l'hectare cultivé. Et puis, un peu plus loin, dans la forêt ou dans l'espace entre les villages, c'est là qu'on a les 2 hectares qui ont été achetés par un pays tiers au titre d'un accord gagnant-gagnant. Alors, regardons aussi comment les choses se passent. En prenant l'exemple de l'État ivoirien. L'État ivoirien s'est dit que, effectivement, une amélioration de l'agriculture pouvait peut-être passer par cette intensification, alors que dans ce pays, 80% de la production agricole dépend de l'agriculture familiale. Mais avec l'idée que peut-être on pourrait améliorer, qu'il y aurait des bailleurs de fonds, bref. L'État ivoirien change sa loi. Modification législative autour de sécurisation foncière, amélioration du climat des affaires et adoption d'un cadre réglementaire pour la nutrition. Voilà un beau programme. 30% des engagements sont réalisés, mais seulement autour de sécurisation foncière, on pourrait se demander pour qui, et puis amélioration du climat des affaires. Pour la nutrition, on verra plus tard. Alors, que demande la loi ? La loi demande à chaque paysan d'avoir un certificat foncier pour la terre qu'il exploite. Comme ça, on peut mieux lui faire perdre sa terre. C'est-à-dire que l'État peut vendre ses terres entre les villages, qui étaient souvent des terres cultivées en communauté, qui appartenaient à l'ensemble du village, donc sur lesquelles le paysan n'avait pas exactement un certificat foncier. Et les procédures pour obtenir un certificat foncier, c'est environ 500 euros. Lorsque les revenus mensuels d'un paysan, c'est au maximum 30 euros. Donc, on voit que la création de l'environnement est plutôt favorable à ceux qui achètent des terres. Eh bien, on va faire une pause musicale pour regarder ensuite comment ça se passe.
Aujourd'hui, des milliers de personnes comme vous dénoncent les agrocarburants, les paradis fiscaux, les accaparements de terres et la spéculation des denrées alimentaires. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer d'agir à nouveau et avec toutes les équipes du CCFD Terres Solidaires pour combattre ce fléau de la faim. La crise est toujours là et il faut le savoir, elle touche les plus fragiles. Les besoins sont de plus en plus criants. Ces situations sont inquiétantes et de nombreuses vies dépendent de notre capacité à accompagner des hommes et des femmes pour que ces communautés sur le terrain trouvent les moyens de sortir leur population de la famine, sortir durablement des situations de misère qui les accablent.
Eh bien, nous sommes toujours dans l'émission Terres Solidaires. J'évoquais la situation en Côte d'Ivoire, et notamment cette législation qui portait sur la sécurisation foncière, l'amélioration du climat des affaires et l'adoption d'un cadre réglementaire pour la nutrition. Alors, on a vu déjà que pour avoir un certificat foncier pour la terre qu'il exploite, le paysan était assez mal placé. Donc, il y a effectivement là la création d'un environnement favorable aux investissements. Mais l'État ivoirien dit que, dans certains cas, ces investissements se font pour l'État ivoirien lui-même. Donc, l'objectif serait tout de même d'une agriculture pour la Côte d'Ivoire. Alors, il y a effectivement 2 grandes catégories d'entreprises. Il y a les entreprises multinationales et les nationales. Mais pour l'entreprise nationale, par exemple Intercoton, une entreprise reconnue de droit ivoirien, ou bien pour l'entreprise Sivka, ce sont des filiales d'entreprises à capital international et on retrouve Louis Dreyfus, Cargill, Nestlé, c'est-à-dire ce sont des filiales de leaders internationaux du secteur agricole qui veulent accaparer la rente agricole, ou bien on sait que la Côte d'Ivoire produit du cacao et du chocolat et on retrouve Nestlé. Donc, les intentions déclarées par les entreprises ne sont pas du tout suivies, et notamment en ce qui concerne l'alimentation. Pour ce troisième point, le cadre réglementaire pour la nutrition. La transformation du paysan, il devient ouvrier agricole, et cela a un fort impact social, puisque finalement, il vit beaucoup plus mal. Une partie de ses terres ont été vendues, et son niveau de vie ne s'est pas amélioré, au contraire. De plus, les entreprises, lorsqu'elles cherchent à améliorer la situation des paysans, regardent notamment les ressources locales. Et elles ont souvent beaucoup de moyens pour accaparer les ressources génétiques. Et elles mettent des brevets sur les semences ou bien les produits qu'utilisaient les agriculteurs familiaux. La question se pose, pourquoi ne pas soutenir prioritairement ces agriculteurs familiaux? Alors on dit, ils ne sont pas productifs, ils ne sont pas compétitifs, mais on perçoit aussi que derrière cela, le fait de laisser des entreprises pirater dans la mise en place de catalogues nationaux pour les semences certifiées et s'octroyer des brevets qui font que les paysans ne peuvent plus utiliser leurs propres semences ou bien doivent payer cher pour utiliser des semences qui ont été mises au point par leurs ancêtres. La Banque mondiale elle-même s'émeut de ce système. Elle n'est pas suspecte de gauchisme, n'est-ce pas? Et voilà ce que la FAO et la Banque mondiale disent aujourd'hui, que c'est l'appui à la petite agriculture familiale qui permettra d'améliorer la situation alimentaire dans les pays les plus pauvres. En effet, cet accaparement de terres a de nombreux effets pervers pour les populations habitant dans les pays, puisque la sécurité alimentaire est atteinte, les récoltes partent totalement ou partiellement dans les pays investisseurs, les équilibres écologiques, lorsqu'ils sont fragiles, sont détruits. Il y a pollution des eaux de surface et des nappes phréatiques, dégradation des sols, et puis expulsion, légale ou non, des paysans en place, menace sur la biodiversité, non-respect des droits des populations concernées, non-respect des cultures et des traditions. Et puis pour les paysans qui sont maintenant employés sur ces entreprises agricoles, il y a les conditions de travail tout à fait déplorables, les petits propriétaires devenus ouvriers agricoles doivent un temps de travail très long, des salaires bas, l'hygiène et la sécurité sont aléatoires, et pour leur famille, la vie est devenue de plus en plus difficile. Donc, on voit les difficultés, ce que fait le CCFD, eh bien, il soutient Copagène, par exemple, qui met en place un plaidoyer pour soutenir la biodiversité et s'opposer à ce que cette biodiversité soit piratée par les semenciers du Nord. Allez, tout ne va pas si mal. On s'intéresse à ces questions. Donc cela veut dire que l'aide au développement, ça marche. Encore faut-il que vous aussi vous vous intéressiez, ne serait-ce que par votre participation aux campagnes du Comité catholique contre la faim et pour le développement. Bonne semaine à tous.